autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Guillaume Ploquin à la réalisation autour de la question « Comment distinguer une science d'une pseudo-science ?» Magnétiseurs, guérisseurs, astrologues, médiums ou voyants, il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Certains prétendent qu'il s'agit de pratiques sérieuses, mais que les scientifiques ne veulent pas ou ne peuvent pas en prouver le bien fondé. Seulement, pour la plupart des chercheurs, il ne s'agit que de pseudo-sciences, qui n'ont que les apparences des méthodes rationnelles sans en avoir la rigueur. Il est vrai que la frontière peut sembler floue dans certains cas. Des pratiques médicales non scientifiques peuvent s'avérer efficaces, et certaines d'entre comme l'homéopathie revendique un statut vraiment scientifique. A l'inverse, les chercheurs attitrés peuvent aussi se tromper car l'erreur fait partie de la science. Alors, comment y voir clair ? Existe-t-il des moyens de s'y retrouver sans a priori et sans dogmatisme, avec des critères simples, accessibles à tous, qui permettent d'aiguiser notre essence critique ? Pour le savoir autour de la question comment distinguer une science d'une pseudo-science, nous recevons aujourd'hui Richard Monvoisin. Richard Monvoisin, vous êtes didacticien des sciences. Vous êtes membre du CORTEX, acronyme de Collectif de Recherche Transdisciplinaire Esprit Critique et Sciences. Vous enseignez la pensée critique à l'Université de Grenoble et vous avez publié plusieurs ouvrages sur les fleurs de Bach, par exemple, Enquête au pays des élixirs. Le dernier livre s'intitule Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur les thérapies manuelles avec Nicolas Pinceau aux presses universitaires de Grenoble. Alors, qu'est-ce que cela veut dire didacticien des sciences et en quoi consiste exactement votre travail ?
Alors, un didacticien des sciences, son job, c'est de transmettre des connaissances en sciences, comprendre les processus qui sont à l'œuvre quand on essaie de donner du contenu scientifique à des publics, quels qu'ils soient. Alors, ça peut être de la transmission des sciences au travers des musées, mais au travers des spectacles, au travers surtout des enseignements ou de la vulgarisation scientifique. Et moi, mon métier, c'est de transmettre la pensée critique à des étudiants plutôt d'un niveau début d'université.
Alors, pour commencer notre voyage au pays des pseudosciences, écoutons ce petit florilège avec le mix de Guillaume Ploquin.
La phrase la plus importante en science, c'est pas Eureka, mais tiens, c'est bizarre.
Quand j'ai débarqué dans ce milieu-là, avec mon regard un petit peu cartésien en tout cas, j'ai été étonné de constater quand même que le phénomène sourcier n'est pas avéré scientifiquement.
Qu'en est-il des rapports de l'astrologie avec la science ? Et si je dis cela, c'est parce qu'on voit beaucoup d'astrologues qui disent encore aujourd'hui, nous sommes des scientifiques. Alors, il me semble que c'est quelque chose quand même qui aurait besoin d'être un peu tiré au clair.
Tiens, je prends celui d'aujourd'hui, par exemple, tel Clochard Lyon aujourd'hui, cœur. Vous n'avez jamais autant profité de la vie que depuis que vous êtes seul.
Il n'y a pas de vérité unique, il y a des vérités multiples.
Le fondement du Feng Shui, c'est comment nous interagissons avec notre environnement et comment cette interaction crée notre destinée.
Au centre hospitalier de Grenoble, la chef du service de cancérologie respecte les croyances. Il lui arrive même de parler des coupeurs de feu à ses patients.
On peut dire tout bonnement que la science est trop jeune pour comprendre certaines choses.
C'est quand même un peu plus compliqué que ça, donc je peux pas vous l'expliquer en trois mots.
Richard Monvoisin, vous êtes spécialiste justement de ces pseudosciences dont on vient d'avoir un petit aperçu. Je crois que des études ont montré que 80% des gens à l'échelle planétaire auraient recours à des thérapies traditionnelles hein, telles que le chamanisme, la sorcellerie ou la voyance, et que même selon l'Organisation mondiale de la santé, 50% des Français auraient eu recours aux médecines alternatives. Qu'est-ce que ça vous évoque alors ces chiffres, alors que nous sommes dans une société finalement où les applications de la science ont de plus en plus de place.
Mais ça m'étonne pas vraiment. Et je pense que c'est pas parti pour changer. Au sens où les thérapies qu'on dit alternatives, souvent elles proposent un sens aux pathologies. Elles expliquent, elles tentent de donner un cadre explicatif. Elles essaient de vous dire le pourquoi. Pourquoi c'est vous qui êtes malade? Pourquoi vous sentez ça? Pourquoi ça vous arrive à vous? Alors que la science peut pas répondre à ces questions-là. Ce sont des questions qu'on dit métaphysiques. Ce sont des questions qu'on peut pas expliquer autrement que par des statistiques. Et souvent le rapport avec le médecin ou le monde médical est relativement froid. Le médecin peut pas vous dire pourquoi c'est vous là aujourd'hui maintenant qui êtes malade. Alors que les thérapies souvent alternatives, en tout cas comme on les appelle, ont tendance à proposer du sens derrière ça. Et ça, c'est très, très satisfaisant pour l'esprit.
Alors, votre démarche, en fait, ça consiste à donner des outils critiques pour se faire sa propre opinion. Hein. Vous parlez d'autodéfense intellectuelle. D'ailleurs, le terme pseudo-science, hein, pseudo, ça veut dire mentir. Hein. Donc, pour commencer, on va écouter un petit reportage réalisé par Alice Milo, qui s'est rendue chez une magnétiseuse, Anne Wojtyna, à Paris, dans le 12e.
J'ôte mes chaussures, moi.
C'est mieux. Voilà, juste les chaussures. Ah, donc, je vais scanner avec mes mains. Ce sont mes mains qui vont aller là où elles doivent aller.
D'accord.
Je passe mes mains sur le corps énergétique de la personne, son rayonnement. Et c'est donc dans les sensations dans mes mains que j'identifie à quel moment je dois m'arrêter pour que la zone puisse s'équilibrer.
Là, par exemple, vous vous êtes arrêté au-dessus du ventre.
Je pense que mes mains vont sur des endroits en déséquilibre ou en demande d'énergie.
On voit vos mains, là, vous prenez quelque chose d'invisible et vous le jetez par-dessus votre épaule.
C'est ça. C'est pour équilibrer, retirer ce que je sens devoir retirer. C'est-à-dire que si je ressens l'électricité, je vais chercher à l'apaiser. Mais si je ressens, un clou, je vais le retirer. Moi, je ne suis pas médecin. Le médecin va poser un diagnostic. Moi, mon intervention, elle est énergétique. Je n'explique pas comment ça marche. Je ne sais toujours pas comment ça marche.
Est-ce qu'on peut appeler ça un don, d'ailleurs ?
Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un don. Pourquoi pas ? Parce que je le vis depuis que je suis toute petite. Mais après, moi, il me semble que toutes les personnes ont cette capacité-là. On est tous électromagnétiques. Donc, on est tous émetteurs-récepteurs. On a tous un rayonnement énergétique, vibratoire. Ce qui fait que j'en ai fait un métier, c'est peut-être une question de batterie ou de réserve d'énergie, plus grande peut-être que certaines autres personnes.
Qu'est-ce qui vous a amené en fait aujourd'hui ici ?
Alors, il y a une semaine, on m'a diagnostiqué un zona au niveau du cuir chevelu, ma généraliste.
Ça se traduisait comment ?
Alors, éruption cutanée et douleur qui irradiait dans l'oreille jusqu'au haut du cuir chevelu. Et donc, je me suis dit, je vais chercher. J'ai pas cherché quelque chose que la médecine classique pouvait pas m'apporter. J'ai cherché du complément. Ça peut être un plus, pourquoi s'en priver ?
Quel est votre lien avec la médecine ?
Eh bien, il y a des médecins qui m'envoient leurs patients. Notamment, je pense à quelqu'un, donc c'est un médecin généraliste, qui m'a envoyé une de ses patientes très âgée, qui avait un très très gros kyste à l'épaule. Qui disait donc peut-être le mieux pour cette personne âgée, si elle pouvait éviter l'opération et réduire donc le kyste, ce serait peut-être bien. Donc on a fait l'essai et en 2 séances, le kyste a disparu. Et donc ça a permis à la personne d'éviter l'opération. Et j'interviens parfois aussi dans les hôpitaux à la demande des gens.
Suite à une opération par exemple ?
Par exemple, oui. Pour favoriser la cicatrisation, le réveil, il y a eu une évolution, oui. Je pense que les médecins s'ouvrent de plus en plus à ça et pour le bien de leurs patients. Et donc, le médecin auquel je pense me dit « Mais je suis cartésienne, je ne comprends pas comment ça marche, mais ça marche. Peu importe de savoir expliquer ou de comprendre comment ça fonctionne, si ça fonctionne, ça fonctionne. » Et c'est ce qui fait la difficulté pour les scientifiques hein, d'expliquer, parce que pour certaines personnes, ça va très bien marcher, pour d'autres, beaucoup moins bien ou pas du tout. Le mystère reste entier.
Autour de la question, comment distinguer une science d'une pseudo-science avec Richard Monvoisin, didacticien des sciences. Richard Monvoisin, qu'est-ce que ça vous évoque, ce reportage chez un guérisseur ? Qu'est-ce qui vous frappe le plus ?
Ce qui me frappe le plus, pas grand-chose, parce que c'est relativement courant. C'est à peu près toujours le même scénario et les mêmes discours autour d'enveloppes énergétiques potentielles que la science n'aurait pas montré. Mais en fait, ça se montre, ça. Si vraiment ça devait exister, on peut mettre en place des protocoles expérimentaux pour montrer ça. C'est relativement facile. On a eu l'occasion de faire plusieurs tests de ce genre-là. Et si ça devait exister, on devrait pouvoir le montrer. Et si ça marche vraiment, alors c'est facile de monter un protocole expérimental avec un groupe qui reçoit le soin complémentaire et le groupe qui ne le reçoit pas. On regarde les résultats. Et malheureusement, Eh ben, les résultats ne sont pas très bons dans le sens des dons de magnétiseurs.
Ouais, ça a été fait, ce genre d'expérience a vraiment été fait.
C'était fait, et puis c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, depuis le roi thaumaturge, le passage des mains sur les escroelles et les scrofules au XIIIe, XIVe siècle, jusqu'à maintenant, c'est sans arrêt que ce sujet revient.
Il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais ça marche quand même, je suis allé voir un guérisseur et j'ai été soigné, quoi. Oui, en fait, j'allais mieux.
Le tout, c'est de savoir qu'est-ce que ça signifie, ça marche. Est-ce que ça signifie que la pathologie que vous aviez, elle s'en va? Dans ce cas-là, ça se montre facilement. Et malheureusement, on trouve pas de cas de personnes en mesure de guérir des pathologies précises au moyen de leurs mains.
Les gens qui sont allés voir un guérisseur,
ils sont satisfaits.
Qui sont satisfaits.
Et là, c'est autre chose d'être satisfait.
Oui, alors
être satisfait d'un soin, c'est autre chose. Hein. En fait, on y trouve un cadre dans lequel on peut s'exprimer. On est pris dans sa globalité. Et il y a plus que le soin. Il y a toute la souffrance qu'on ressent autour, toute la symbolique qui est autour, et le fait d'opter pour quelque chose qui semble être quelque chose en plus, une petite touche un peu mystérieuse en plus, peut nous permettre de générer ce qu'on appelle un effet placebo. Et un effet placebo, c'est un effet réel. Un effet réel qui ne soigne pas le soin, mais qui nous fait sécréter tout un paquet d'endorphines et de dopamine qui nous font mieux vivre ce qu'on ressent.
Ce que vous dites, c'est que ces gens soignent, en fait, mais pas plus que l'effet placebo.
On en est là, en tout cas pour l'instant.
Oui. Et elle dit aussi, en fait, cette guérisseuse, on ne sait pas comment ça marche, mais on pourrait dire aussi qu'en médecine classique ou scientifique, disons, il y a des procédés qui sont efficaces sans qu'on puisse expliquer comment ils fonctionnent.
C'est clair. Mais normalement, peu importe que l'on comprenne pourquoi ça marche, si tant est que ça marche, en fait. D'abord, prenons les faits, regardons les faits. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui, au moyen de leurs mains, sont capables de détecter, ne serait-ce que détecter des pathologies, et ensuite, capables de les guérir? Après ça, on travaillera sur la théorie. Le problème, c'est que souvent, on vient avec la théorie d'abord, et on essaye de trouver des cas qui corroborent ce qu'on pense.
Oui, alors vous dites en fait que les phénomènes qu'on dit extraordinaires peuvent se prêter à l'expérimentation scientifique, à l'observation, pour la plupart. Alors, on va écouter cette interview de Shoko Asahara, le fondateur d'une secte japonaise, la secte Aum.
Nous avons prouvé qu'il était possible d'acquérir des pouvoirs surnaturels en pratiquant la lévitation. Chez Aum, sous la direction du maître honorable Asahara, plus de 300 adeptes ont vaincu la force de la gravité et volent. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration de lévitation?
Je ne suis pas au cirque, ce n'est pas un spectacle. Si je faisais ça pour vous, ce ne serait pas authentique.
Oui, alors là, on entend Shoko Asahara qui dit, voilà, je peux léviter, mais je vais pas le faire devant vous. C'est un procédé que vous connaissez, ça.
Ouais, bien sûr. Ouais. Et le paranormal, l'approche paranormale, c'est vraiment un des fers de lance des recrutements vers des dérives qu'on qualifie de sectaires assez régulièrement. D'ailleurs, Shoko Asahara est dans le couloir de la mort, il me semble, encore maintenant, pour avoir balancé du gaz sarin en 95 dans le métro à Tokyo.
C'est ça, il faut rappeler que c'est une secte. A tué beaucoup de gens, en fait. Donc alors, mais il y a quand même des gens qui prétendent avoir des pouvoirs extraordinaires et qui se prêtent à des expériences, qui acceptent en tout cas de jouer le jeu scientifique, mais ça n'a jamais donné de résultat supérieur pour l'instant, non. Au hasard.
J'avoue que la majorité des gens qui pratiquent ce genre de méthode ne souhaitent pas tester. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que le meilleur moyen de prouver ce qu'ils prétendent, ça serait de le tester. Mais il en existe quand même une petite minorité qui souhaite le faire, mais quand on s'y prête, hélas, le résultat n'est pas au rendez-vous.
Il y a même des expériences, je crois, qui ont été faites, surveillées par des illusionnistes, pour voir s'il n'y avait pas de trucs.
Oui, c'est quand vraiment, là, on se méfie. C'est très rare qu'on ait affaire à des gens qui soient de mauvaise foi. Je dois vous avouer que l'immense majorité des praticiens sont des gens de très bonne foi. Il arrive parfois qu'au milieu se greffent un ou deux personnages un peu limite escrocs, et qui sont souvent des magiciens ou souvent des illusionnistes, et qui se servent de leurs dons et de leurs capacités qu'ils ont travaillées, quoi. Pour berner le petit jury scientifique qui est là. Et donc c'est bien de s'entourer d'un prestidigitateur dans ces cas-là. Lui, il sait détecter ça. Nos sens sont très peu fiables, en fait.
Alors, on pourrait dire aussi que certains phénomènes peuvent sembler extraordinaires parce qu'on ne sait pas encore les expliquer, mais que la science, un jour, pourrait expliquer certains phénomènes. Écoutons cette interview du biologiste Jean Rostand dans la première moitié du XXe siècle.
Affirmer un miracle, c'est penser qu'on sait le tout de la nature, ce qui, entre parenthèses, est très anti-pascalien. C'est dire qu'on connaît les limites des lois naturelles, c'est décréter là s'arrête la nature, ici commence le surnaturel. Or, je vous l'avoue, cela me paraît présomptueux, aussi même si l'on me montrait, et il n'en est pas question, car les miracles qu'on nous présente sont toujours assez discrets et s'exercent, pour ainsi dire, dans le style même de la nature. Alors même qu'on me montrerait un doigt qui repousse, je ne dirais pas encore qu'il y a miracle, parce que je déclare d'avance que j'ignore toutes les possibilités des cicatrisations naturelles. Pour prendre un exemple concret, chez les grenouilles, il n'y a pas d'ordinaire de régénération. Mais parfois, sous certaines influences, on voit un doigt repousser. Or, présentement, avec les effets psychiques, avec l'action du sympathique sur les glandes, avec l'action des hormones sur les tissus, et notamment sur le tissu conjonctif, avec un peu de Pavlov et un peu de Freud, je pense qu'on pourrait théoriquement presque tout expliquer de ce qu'on nous présenterait d'un peu extraordinaire.
Autour de la question, comment distinguer une science d'une pseudo-science? Alors, Richard, mon voisin, déjà, ce qu'on peut faire, c'est en fait expliquer ce qu'est une démarche scientifique. Qu'est-ce qui caractérise la démarche scientifique, d'après vous?
Alors, c'est assez protéiforme, on peut dire. Ça dépend vraiment des disciplines. Mais l'essentiel pour une démarche scientifique, c'est d'essayer d'énoncer des choses qui sont un peu plus vraies que les précédentes, un peu plus précises, un peu plus larges. Et donc, il y a une démarche qui est similaire presque dans toutes les disciplines, qui consiste à déjà regarder quels sont les faits, quels sont les échantillons de faits que l'on a. Et qu'on soit en sciences politiques ou qu'on soit en physique ou en chimie, c'est à peu près similaire. On regarde comment on choisit les faits, comment on essaie de trouver des lois entre elles, et on essaie de construire ensuite un corps théorique, une théorie au-dessus, pour essayer de rendre cet ensemble de faits prédictible. Et on remarque que dans les pseudo-sciences, oui, le mot pseudo-science, il n'est pas très heureux, parce que pseudo, ça signifie mensonger, comme je disais tout à l'heure. Bon, des gens mensongers, il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, on dit qu'une pseudo-science, c'est une discipline qui...
Comment il faudrait dire, en fait, alors, quel autre mot serait plus s'approprier?
C'est compliqué. Il y a des gens qui vont dire parascience, mais ça donne l'impression que c'est en parallèle de la science. Oui. Je sais pas, pseudo-science, gardons-le pour l'instant, mais disons qu'une pseudo-science, en tout cas, c'est vraiment un domaine qui est censé faire des affirmations sur le monde et qu'on a prouvé être faux par différents moyens, mais que les principaux tenants continuent à maintenir comme vrai, contre toute preuve.
Disons, la démarche scientifique, ça consiste à confronter justement les hypothèses à la réalité, en faisant, si possible, des expériences. On peut dire que les expériences ne sont pas toujours possibles. Par exemple, en préhistoire ou en astrophysique, on ne peut pas forcément toujours faire d'expériences.
Non, c'est clair, les sciences historiques posent ce problème, on ne peut pas revenir en arrière. Mais par contre, pour des choses très concrètes, que ce soit le passage des mains, ou que ce soit la divination, ou que ce soit des phénomènes de précognition, et ben, tout ça, ça se teste assez aisément.
Oui. Et justement, un critère important, c'est ce qu'on appelle la réfutabilité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ah, c'est un épistémologue autrichien qui s'appelait Karl Popper qui avait posé ce critère qui est vraiment très intéressant. C'est un critère qu'on appelle le critère de réfutabilité. En gros, ce que dit Popper, c'est pour distinguer une science du pseudo-science, c'est un élément nécessaire, c'est de regarder si est-ce qu'on peut contredire cette pseudo-science, est-ce qu'on peut contredire ce domaine, est-ce qu'il existe une expérimentation qui permettrait de dire que cette théorie puisse être fausse. Si on peut pas la contredire, alors cette théorie est close, on dirait. Elle est close, tellement close qu'on pourrait parler d'un scénario, quoi. Alors, je vous donne un exemple. La gravitation, on la considère comme une théorie parce qu'il suffirait qu'un jour on lâche un corps lourd et il tombe pas pour qu'on se dise tiens, il va falloir changer de théorie. Mais dans des contextes comme, prenons des formes de créationnisme par exemple, vous pourrez jamais composer une expérimentation qui pourrait contredire en fait le discours sacré sur lequel est basé le créationnisme. C'est ça le problème, c'est incontradictible. Les théories du complot aussi sont un petit peu comme ça.
Oui, et puis disons, en science, on n'a pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. C'est-à-dire, même si on ne croit pas à la gravitation, on tombe quand même.
Comme on dit, le monde se fout de notre avis.
Oui. Oui. Mais est-ce qu'il y a des degrés, disons, entre la science et puis les pseudo-sciences, ou est-ce que, bon, il y a des sciences qui sont plus ou moins des sciences ou des pseudo-sciences?
Oui, bah, en fait, l'histoire déjà, la construction des sciences, elle a été progressive. Chaque fois, chaque année, mais même ces dernières années encore, on a découvert quelques aspects de la démarche scientifique qu'on est obligé de prendre en compte, parce qu'on connaissait pas certains biais auxquels on a été confrontés. Donc c'est vrai que dans le courant Moyen-Âge, la Renaissance, chaque étape, en fait, vous avez eu des mélanges entre des disciplines qu'on croyait être scientifiques à l'époque, et qui sont avérés pas l'être, quoi. Là, les pires exemples, c'est des exemples de théories racistes au 19e siècle.
On y reviendra après le flash, donc autour de la question comment distinguer une science d'une pseudo-science. Suite dans 3 minutes après le flash.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour
de la question. Antonio Fischetti.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette deuxième partie autour de la question « Comment distinguer une science d'une pseudo-science ?» avec Richard Monvoisin, didacticien des sciences à l'université de Grenoble. Richard, on a entendu dans la première partie un guérisseur qui, disons, prétendait soigner des personnes comme ça, et par imposition des mains, et elle nous disait justement que dans les hôpitaux, maintenant, on trouvait des guérisseurs. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Est-ce qu'il y a des disons des médecins sérieux, officiels, etc., qui tolèrent ou qui croient vraiment en ces pseudo-sciences.
Disons que moi, mon travail est assez différent de celui des médecins. Les médecins, ils doivent prendre en charge des patients et c'est vraiment compliqué. Il y a tout ce qu'ils savent au point de vue science médicale, mais il y a aussi le fait de satisfaire aussi au mieux les personnes qui viennent les voir. Et donc, quand vous avez beaucoup de gens qui vous demandent un soin bien particulier, mais que ce soit une salle de prière, ou que ce soit des soins complémentaires liés à de l'acupuncture ou à des choses de ce genre, je comprends qu'ils aient envie d'y répondre. Le problème que ça pose, c'est sur quelle base de validité on propose ces soins-là. Ne serait-ce que, par exemple, pour choisir un magnétiseur. Si vous êtes à un hôpital ou vous êtes un service de santé, vous voulez choisir un bon magnétiseur. Comment on fait pour distinguer un bon d'un mauvais magnétiseur ? Bah, pour répondre à cette question, on est obligé de monter des protocoles expérimentaux pour vérifier qui est vraiment bon et magnétiseur. Parce que des magnétiseurs, vous en avez dans tous les quartiers, vous en avez des dizaines et des centaines. Comment on choisit ?
Oui, il n'y a pas de protocole, puisqu'on n'a pas de protocole scientifique.
Ils n'en ont pas pour les choisir. Mais ouais. Nous, on pourrait en construire des protocoles de ce genre. De manière à ce que si ça existe vraiment, on puisse en trouver un réellement bon ou une réellement douée.
Disons, le problème, c'est que la réalité, en tout cas, du phénomène n'a pas été mise en évidence, déjà.
Par contre, la prise en charge que ça entraîne, effectivement, ça a un intérêt qu'il faut pas négliger, mais en fait, le tout, ça serait, je pense qu'on pourrait contourner ce problème si on avait des services de santé qui permettaient de prendre en charge de manière souple, douce et patiente et de manière un peu globale les patients, et malheureusement, le système est relativement froid.
Oui. Et on peut voir, justement, disons qu'il y a des porosités entre les milieux scientifiques et parascientifiques, mais que les scientifiques eux-mêmes peuvent parfois se tromper. Hein. Thomas Edison, l'un des pionniers de l'électricité au 19e siècle, cherchait également à communiquer avec les morts, comme on l'entend dans cet extrait.
Je voudrais fournir aux chercheurs spirites un appareil qui leur permettrait de travailler d'une manière strictement scientifique. Cet appareil est basé sur le principe de la valve. Tout comme un microphone amplifie plusieurs fois le volume et la portée de la voix humaine, ma valve amplifie énormément toute force ou énergie, aussi minime qu'elle soit, par laquelle un esprit pourrait se manifester.
Edison, donc, qui a inventé l'électricité et qui, en même temps, cherchait à communiquer avec les morts, nous prouve que, finalement, les frontières sont parfois assez floues et puis que, pourquoi pas, des disciplines qui, à un moment donné de l'histoire, ne sont pas reconnues comme étant scientifiques peuvent l'être à un autre moment et réciproquement.
Oui, bah, c'est souvent, ça arrive parfois qu'effectivement, quelque chose qui est considéré comme non scientifique le devienne après. Mais c'est plutôt l'inverse qui se passe. Généralement, c'est plutôt des disciplines qu'on considère comme valides, qui sont réfutées petit à petit. Mais oui, un scientifique, son job, c'est de tenter des hypothèses. Parmi les hypothèses, parfois, il entend certaines qui sont un peu particulières. Moi, je respecte ça. Hein, je trouve ça intéressant. Le rêve, ça serait, d'ailleurs, c'est un bon cas, celui-là. Hein, la discussion avec les défunts, moi, ça serait mon rêve. J'ai quelques défunts que j'aime bien, avec qui j'aimerais bien discuter. Et le problème, c'est que les transcommunications instrumentales, toutes ces méthodes-là qui consistent à essayer de discuter avec les personnes décédées, moi, j'ai rien de prescriptif à dire. Je vais pas dire s'il faut le faire ou pas. Mais disons que tout ce que je vois, en tout cas, me montre que les techniques qui sont à l'œuvre en ce moment, qui sont présentées comme pouvant permettre ça, sont des méthodes qui malheureusement ressemblent plutôt à de l'auto-illusion. Et j'ai envie de prévenir, en tout cas, et de dire attention, il peut y avoir une grosse dépendance à ces systèmes-là. Hein. C'est-à-dire, on croit qu'on discute avec un enfant décédé ou un parent décédé, alors qu'en fait, on discute avec soi-même. Et il y a des gens qui font du bénéfice là-dessus.
Donc, revenons un petit peu à la médecine, alors, puisque, disons, les médecines parallèles hein, sont très développées, notamment en Afrique. Voici un extrait d'un reportage au Mali, en pays Dogon, extrait de l'émission Priorité Santé, diffusée en 2007 sur RFI, avec un guérisseur qui prétend soigner la maladie de l'oiseau, qui est en fait une forme de paludisme. Et tout de suite après, un médecin.
Quand les enfants font des crises, pour moi, c'est la malédiction de l'oiseau.
Un oiseau maléfique qui transmet un mauvais sort à l'enfant. Quand l'enfant commence à montrer des signes qui le font ressembler à l'oiseau, pour moi, c'est qu'il est atteint de la malédiction de l'oiseau. J'essaie donc de le soigner.
Et pourquoi l'oiseau? D'où vient la symbolique de l'oiseau, du wabo?
Quand l'oiseau va dans les cimetières et se pose sur la tombe, il y a de la poussière qui se colle sur ses ailes. Quand cette poussière tombe sur l'enfant, cet effet maléfique se transmet à l'enfant.
Docteur, j'ai une question. Donc les scientifiques ont la réputation d'être des gens assez cartésiens. Qu'est-ce que vous pensez de ces histoires d'oiseaux?
Sur un plan cartésien, ça n'a pas tellement de sens que l'oiseau transmette cette maladie. Mais il faut reconnaître qu'en milieu traditionnel, ils croient fermement à ça. Dans un milieu traditionnel, vous êtes obligé d'accepter que c'est le cas de paludisme grave qui se manifeste sous ces formes et établir la collaboration avec eux. Petit à petit, ils vont comprendre qu'il y a d'autres substrats qui expliquent ces cas de convulsions qu'ils observent. Notre collaboration avec la médecine traditionnelle, c'est d'élargir notre base de compréhension et de comprendre ce qu'en milieu traditionnel, les gens attendent par paludisme grave. Sinon, d'un point de vue scientifique, c'est pratiquement impossible, surtout pour les formes graves.
Au fait, les guérisseurs sont les faire-valoir, ils vous permettent d'avoir accès à la population.
Tout à fait, ils nous permettent d'avoir accès à la population. Et comme ils jouissent d'une très grande crédibilité auprès de la population, et ce qui fait que dans le cadre de respect mutuel, nous sommes obligés aussi de réserver de l'estime pour eux et d'intégrer leur médecine.
Autour de la question, comment distinguer une science d'une pseudo-science, avec Richard Monvoisin. Donc Richard Monvoisin, là, on vient d'entendre un guérisseur, un marabout, et puis un médecin. Donc le médecin disait qu'il ne fallait pas finalement rejeter systématiquement la médecine traditionnelle, mais faire avec un petit peu. Alors qu'est-ce que vous en pensez?
Non, il explique qu'il est un peu obligé de faire comme ça, pour ne pas froisser, quoi. Et c'est un peu le même rapport qu'on pouvait avoir avec les prêtres, encore il n'y a pas si longtemps dans nos campagnes. Oui, c'est le soin de l'âme, ça fait partie de ces représentations qu'on pourrait dire folkloriques et qui nous font parfois du bien, mais le tout c'est pas se tromper de soin. Si quelqu'un opte pour aller voir un karamoko ou un sorcier local pour soigner quelque chose de grave et se plie juste à quelques lancers de coquillages, ça risque de mal finir pour cette personne, c'est ça le problème.
Oui, mais est-ce qu'il faut pas mieux justement se démarquer radicalement et puis militer contre ces médecines traditionnelles, ou est-ce qu'il faut justement ne pas les rejeter? C'est ça quand même une question très importante.
Sans les rejeter, disons qu'elles en disent long sur nous déjà, donc je pense qu'il ne faut pas les rejeter, mais plutôt de se dire que les jeunes esprits qui arrivent, les jeunes élèves, les jeunes étudiants ou les jeunes adultes, quand ils arrivent dans la vie, s'ils ont un bagage qui leur permet de se faire eux-mêmes une propre opinion, mais une opinion éclairée, une opinion avec toutes les données disponibles, après leur choix sera le leur, quoi. Mais s'ils savent que par exemple un guérisseur local n'aura qu'un soin de type symbolique mais pas un soin réel, si la personne elle opte quand même pour ce soin, et ben c'est son choix.
Oui, alors est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, vous donner des outils critiques, en fait, par exemple, alors vous baptisez cela des effets, par exemple il y a l'effet Atchoum, par exemple, qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, bah alors, pour l'effet Atchoum, on a choisi ce nom là parce que le vrai terme c'est post hoc ergo propter hoc. Effectivement, c'est un peu difficile à retenir. Post hoc, oui. Ergo propter hoc, ça signifie juste après, donc conséquence de. Ça signifie que faites une danse de la pluie et la pluie tombe juste après, vous dites ah, j'ai juste fait la danse de la pluie et il pleut, donc il y a un lien causal direct avec ça.
Mais pourquoi vous l'appelez effet Atchoum?
Alors, Atchoum, ça vient d'une histoire qu'on se racontait entre nous. On se disait, imaginez la personne qui, au moment où l'usine d'AZF à Toulouse a explosé en 2001, la personne qui éternue la seconde avant, qui éternue, poum, qui lève la tête et qui voit le machin exploser, qui se dit, mince, j'ai éternué trop fort.
Oui, on met en relation deux phénomènes qui finalement sont totalement indépendants.
Et notre cerveau, il est très friand de ça. En fait, c'est notre cerveau qui nous piège très souvent.
Oui, on cherche des relations, aussi. Des causalités, en fait. C'est un petit peu ce que vous appelez aussi l'effet cigogne, en fait.
Les effets cigogne, le problème de corrélation de manière générale, en fait. Il y a beaucoup de choses qui varient en même temps. De là à avoir des choses qui varient causalement, c'est-à-dire que A crée B ou B crée A, eh ben, ça mérite d'être vérifié, ça mérite d'être mesuré, d'être vérifié. Sinon, eh ben, notre cerveau va être enclin à avoir des liens partout entre tout, voir des coïncidences entre tout, voir des relations entre tout ce qui se passe.
Ce que vous voulez dire, en fait, c'est qu'on est piégé par notre cerveau, finalement, qui nous, conduit à des faux raisonnements. Et vous, vous essayez de nous mettre en garde contre ces mauvais raisonnements de notre cerveau.
J'essaie même de me mettre en garde moi-même, hein, car mon cerveau lui aussi est friand de cela.
Oui. Mais alors, par exemple, alors vous appelez aussi l'effet bistandard, c'est quoi exactement pour les coupeurs de feu?
C'est quand on remarque, par exemple, prenons le cas des magnétiseurs ou des barreurs de feu ou un peu des thèmes de ce genre-là, quand la science tend à montrer quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on aime bien, on se dit « Ah, la science fait du bon travail puisqu'elle montre ce qu'on aime bien ». Par contre, si la science réfute ou tend à montrer que ça ne fonctionne pas, on dit « Ah mais non, mais la science en fait c'est nul ». On a un double standard en fait vis-à-vis de la science. Donc quand la science va dans le sens de ce qu'on aime bien, on le valide. Quand elle va dans le mauvais sens, on réfute la science. C'est assez étonnant.
Alors, tout le monde, disons, personne n'est à l'abri, hein, justement, des pseudo-sciences ou des sciences parallèles. Écoutons cet extrait des Victoires de la musique en 2007.
Inhibe Jacob Colman et Funda Dominiam.
Pardon ma sœur, le cancer est guérissable avec des remèdes naturels. Je m'excuse de perturber votre salle, mais le cancer est guérissable avec des remèdes naturels. Ça fait longtemps que le cancer est guérissable avec des remèdes naturels. On nous trompe sur les chiffres de guérison, il n'y a pas 65% comme ils le disent à la télévision. On
appelle nous avons fait une émission.
Il y a la cure breuse qui guérit le cancer. J'ai guéri d'un cancer avec des remèdes naturels. Ça fait longtemps qu'on sait guérir le cancer.
Il y a eu une émission là-dessus sur France 2.
C'est pas vrai, on nous trompe.
On est désolé, mais ça s'appelle les inconvénients du direct. Voilà.
Direct, alors nous sommes aussi en direct hein, autour de la question comment distinguer une science d'une pseudo-science. C'était Agnès Jaoui qui était en train de chanter quand un homme a fait irruption sur scène pour faire la promotion des remèdes naturels contre le cancer. Alors là, on est dans un domaine très dangereux, effectivement, puisque des personnes peuvent tenter des remèdes qui non seulement ne sont pas efficaces, mais peuvent les détourner d'autres remèdes.
Ben oui, et puis c'est un cas typique celui-ci. Vous avez un monsieur qui est sincère, qui vient sur la base de son expérience personnelle témoigner, et en fait l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que ce monsieur va délivrer un message disant qu'on peut guérir le cancer par des remèdes naturels, et notamment par une cure qui s'appelle la cure Breus, et il dit Breus, du nom d'un naturopathe qui s'appelait Rudolf Breus, qui est décédé en 91, et donc il annonce ça comme ça à tout le monde. On peut guérir le cancer, vous pouvez, on nous ment, laissez parler les gens qui savent. Et sur la base de son expérience personnelle, il va élargir ça à mes parents, mes proches, mes amis, vos amis, tous les gens qui sont susceptibles de souffrir d'un cancer, et leur donner un espoir qui est peut-être vrai. Mais regardons alors les faits. Comment Breus a construit ses faits? En fait, il les a pas construits, il a fait un bouquin, il a donné des recettes de jus de légumes, et il a demandé aux gens qui étaient atteints d'un cancer de consommer que des jus de légumes pendant une quarantaine de jours, sous prétexte que le cancer ne se nourrirait que d'aliments solides. Et il faudrait donc l'affamer, le faire mourir en ne lui donnant que des aliments liquides. Il n'y a absolument aucune preuve à l'appui de cela. Même lui, il n'en a pas composé. Et d'ailleurs, quand on lui a posé la question sur quelle base vous avez construit ça, il dit sur la base des centaines de témoignages que j'ai reçus. Et ça, c'est un critère vraiment important. C'est que souvent, dans ces thérapies-là, on nous apporte plein de témoignages convergents.
Mais qui ne prouve rien, finalement.
C'est ça, en fait.
Disons, l'accumulation des témoignages n'est pas une preuve en soi.
Exactement.
Oui. Alors écoutons justement un autre extrait à propos de l'homéopathie. C'est le professeur, c'est Christian Boiron hein, qui dirige les laboratoires Boiron, qui fabrique des produits homéopathiques.
Selon des critères qui s'appliquent mal à l'homéopathie, on présuppose, on suppute, on définit, on décide, on décrète que l'homéopathie n'est pas aussi scientifique qu'il le faudrait.
Mais c'est un peu vrai que ça n'a pas été prouvé scientifiquement.
Non, c'est faux. C'est faux, ça a été prouvé scientifiquement. Par contre, on ne sait toujours pas comment ça marche. Et il faut bien distinguer les deux aspects.
Donc c'était un extrait de l'émission Priorité Santé en 2004 hein, sur RFI. Christian Boiron dit ça a été prouvé scientifiquement que l'homéopathie marche. Alors, qu'est-ce que vous en dites?
Généralement, j'en parle pas en une minute parce que c'est un sujet très complexe, mais je fais un cours de deux heures là-dessus.
Et bon, prenons
je peux
au moins
donner quelques billes. Quand s'il dit ça marche, effectivement ça marche. Et les études montrent que l'homéopathie est un excellent maximalisateur d'effet placebo. Voilà. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça a une efficacité propre? C'est-à-dire, est-ce que ça a une efficacité qui n'est pas dépendante du contexte de soins? La réponse est non, et il n'y a aucune étude qui montre cela. Quand il dit qu'on ne comprend pas le mécanisme sous-jacent, mais qu'il est quand même démontré, je pense qu'il fait référence à l'affaire de la mémoire de l'eau, et cette expérience est une expérience qui date de 1988 et qui s'est avérée être une fraude.
Oui, rappelez en deux mots.
En deux mots, un monsieur de l'INSERM, qui s'appelait Jacques Benveniste, travaillait sur la dégranulation de basophiles. Bon, c'est un peu compliqué, je vous épargne les détails. Et il s'avère qu'en fait, ils essayaient de tester si des substances hautement diluées on obtenait avec un résultat thérapeutique, alors que normalement les molécules actives ne sont plus présentes dans la solution. Ce qui est la base de l'homéopathie. Alors là, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Hahnemann, en 1905, quand il crée cette théorie, on est dans un contexte où on comprend pas encore très bien comment ça marche. On est dans la période des vaccins et on peut comprendre que lui ait opté pour un système qui est basé sur des poisons qu'on va diluer hautement pour soigner une maladie. Mais maintenant, depuis les années 10, 20, 30 et même 40, même les nazis ont essayé de montrer que la théorie allemande de l'homéopathie de M. Hahnemann fonctionnait, ont échoué, et depuis lors, ce n'est qu'une multiplicité de publications que les frères Boiron produisent régulièrement. Mais si ça s'avérait être vrai, vous auriez un triple prix Nobel en physique et en chimie, parce que vous avez une transmission de matière, de transmission d'information sans transfert de matière.
Donc c'est-à-dire, en fait, il n'y a pas d'expérience, disons, confirmée, qui prouve que l'homéopathie a, disons, une efficacité supérieure au placebo.
C'est bien ça. Mais c'est déjà pas mal.
Oui, c'est pas mal.
Mais est-ce qu'on peut pas se réapproprier nos placebos? Si vraiment on a une démarche naturelle, autant se réapproprier son placebo et le fabriquer soi-même plutôt que de l'acheter à une industrie lourdement capitaliste.
Petit moment de réflexion avec Arthur H., grand marabout.
Retour définitif de l'être aimé, discrétion assurée, garantie la fin de tous vos problèmes, et dans tous les domaines, garantie la fin de tous vos problèmes, et dans tous les domaines.
autour de la question comment distinguer une science d'une pseudo-science avec Richard Monvoisin, didacticien des sciences à l'université de Grenoble. Donc Richard Monvoisin, vous avez étudié plusieurs thérapies parascientifiques, et notamment ce qu'on appelle les coupeurs de feu. Alors de quoi il s'agit exactement ?
Les coupeurs de feu, on les appelle parfois aussi des penseux, des rabilleux, des gens qui ont le secret, sont des personnes qui disent être en mesure de faire passer les brûlures à distance, par téléphone, et elles vous font passer la douleur et à long terme elles vous enlèvent les traces. Alors nous on a travaillé là-dessus en se demandant, en appliquant un des principes de base en science qui s'appelle le rasoir d'Occam, c'est-à-dire est-ce qu'il existe une explication non surnaturelle à ce qui se passe.
Vous appelez ça comment, le rasoir
d'Occam, c'est-à-dire est-ce qu'on peut expliquer les choses de manière parcimonieuse sans avoir recours à des entités non démontrées.
D'où ça vient cette expression?
Le rasoir d'Occam, ça vient de Guillaume d'Occam, un moine franciscain du 14e siècle qui lui-même avait piqué ça à Aristote, qui lui-même l'a piqué en Pédocle. Bref, on s'en fiche un peu, mais ça, on appelle ça le rasoir d'Occam parce que le rasoir coupe les entités, les notions non nécessaires pour expliquer.
On garde uniquement, disons, l'essentiel.
On va essayer de trouver en tout cas le système le plus parcimonieux pour expliquer les choses. Et pour le coup, on a trouvé un système qui est assez parcimonieux pour expliquer ça, qui ne met pas en jeu de dons surnaturels. Alors, je vous l'explique, mais je ne veux pas tuer le sujet, mais en gros, ce que l'on pense, c'est que tout est basé sur deux problèmes de corrélation. Le premier, c'est qu'on a tendance à considérer qu'une brûlure extrêmement douloureuse, c'est une brûlure qui est grave. Et le problème, c'est qu'en fait, les brûlures de premier degré et de deuxième degré léger sont effectivement très douloureuses parce que les terminaisons nerveuses sont encore là. Alors que les plus graves, elles sont pas douloureuses. C'est d'ailleurs mauvais signe, si vous mettez le doigt dans votre brûlure, vous sentez rien, c'est que c'est probablement assez grave. Deuxième chose à savoir, c'est que la plupart des gens qui sont brûlés de manière grave n'ont pas le temps de passer un coup de téléphone, ils sont évacués vers l'hôpital et puis... ils passent pas de coup de téléphone. Donc ceux qui appellent sont des gens qui ont mal, mais pour une brûlure qui est bénigne, mais ils le savent pas vraiment.
Donc il va donc se guérir toute seule finalement.
Théoriquement, se guérit tout seul. Alors la première chose, c'est qu'on passe un coup de fil. La personne en face généralement fait une prière de type chrétienne. Et puis dans l'heure, vous avez la douleur qui s'en va. Et ça, on comprend très bien pourquoi, en fait, quand on regarde les mécanismes cérébraux, sans rentrer dans le détail, disons qu'il y a une sorte d'habituation, le cerveau vous dit, bon, ça y est, j'ai compris, t'as mal, ça fait 45 minutes que j'entends que t'as mal, donc là, maintenant, je coupe le signal, et hop, ça suffit. Et au bout de 45 minutes, faites pas le test, je dis ça pour plaisanter, mais si vous brûlez avec une théière ou une cafetière, vous verrez qu'au bout d'une trois quarts d'heure à peu près, la douleur s'estompe d'un coup. Et donc là, on tombe dans ce qu'on appelait tout à l'heure l'effet Hatchoum, le post-hoc, c'est-à-dire on croit que la douleur s'arrête juste après le coup de fil, donc on croit que c'est grâce au coup de fil.
Et en fait, le guérisseur n'y est pour rien.
Mais le guérisseur, il croit, et la personne qui le vit le croit. Et alors, pourquoi il n'y a pas de traces à la fin? C'est que les premiers degrés et deuxième degré léger ne laissent pas de traces à long terme.
On pourrait parler de beaucoup de choses, beaucoup de sciences parallèles, de pseudo-sciences ou de parasciences. Il y en a une quand même dont on ne peut pas faire l'économie, c'est l'astrologie avec Jean-Yves Lafeste, une imposture téléphonique.
Ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire.
D'accord.
Travail, monsieur.
Oui.
Vous êtes assez limité de toute façon.
Oui.
Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas.
Oui.
Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous.
Ah.
Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche.
Ah bah dis donc.
Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, car les planètes sont contrariantes.
Oui.
En raison de la position d'Urne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact?
Il y a peut-être quelque chose de vrai.
D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être.
Ouais.
C'est exact?
C'est exact, oui.
Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective.
Ah.
Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers.
Ah bah c'est déjà fait alors.
C'est-à-dire?
Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein.
Comment distinguer une science d'une pseudo-science? On entend Jean-Yves Lafesse, là, vous avez compris, évidemment, il s'agit d'une imposture téléphonique, c'est-à-dire il dit absolument n'importe quoi à une personne qui vient de téléphoner. Et Richard Monvoisin, alors qu'est-ce que ça vous évoque?
On peut tirer deux choses vraiment chouettes. La première chose, c'est un effet psychologique qu'on doit à un psychologue qui s'appelait Forer dans la fin des années 40, qu'on appelle l'effet Barnum, qui consiste à... On constate que quand on met quelqu'un confronté à un discours qui est relativement sympathique, mais généraliste, la personne va faire sens avec ce discours. On pense que cet effet Barnum, c'est celui qui...
Barnum comme le cirque, en fait.
Barnum comme le cirque Barnum, sous-entendu, il y en aura pour tout le monde. Vous voyez, il y en aura un peu pour tout le monde.
Tout le monde s'y retrouve. Hein.
Tout le monde s'y retrouvera un petit peu. Donc, on vous fait des phrases relativement floues, puis c'est à vous de faire le sens. C'est exactement ce que fait le monsieur au téléphone. D'ailleurs, il fait sens avec ce qu'on lui raconte. La deuxième chose qui est intéressante dedans, c'est moi ce que j'appelle la restriction du champ des possibles. Alors, je m'explique. Quand un voyant ou un devin vous fait une affirmation du genre « attention dans les escaliers », par exemple, ou « attention aux accidents de la route », vous avez deux choix possibles. Soit vous y adhérez. Vous dites, bon, bah, je vais faire attention. Soit vous vous dites, j'y adhère pas, je m'en fiche, je ne donne aucun crédit à cela. Si vous y adhérez et que vous avez quand même un accident de la route ou une chute dans les escaliers, vous dites, ah, bah, il avait raison puisque je suis tombé dans les escaliers. Si vous y adhérez et que vous ne tombez pas dans les escaliers, vous dites, ah, bah, j'avais raison de l'écouter puisque grâce à ce qu'il m'a dit, je suis pas tombé dans les escaliers.
Mais donc, on va toujours lui donner possible. Raison, ouais.
Dans le cas où vous n'y croyez pas et que vous tombez dans les escaliers, vous dites, mince, bah, j'aurais bien dû l'écouter puisque il me l'avait prédit. Donc, on valide encore. Et dans le dernier cas, si vous n'y croyez pas et qu'il vous arrive rien, eh ben, vous oubliez.
Je ne sais pas si on s'est fait beaucoup d'ennemis au cours de cette heure passée avec vous, Richard, mon voisin. En tout cas, merci de nous avoir aidé à nous faire une opinion un peu plus juste sur la différence entre une science et une pseudo-science. Avec Guillaume Ploquin à la réalisation et Eleonora Farad en coulisses. Rendez-vous demain autour de la question avec Sophie Joubert qui nous parlera de l'histoire de la relativité générale. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux et dans quelques instants, les informations sur la radio mondiale.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Une semaine d'actualité.